drôle d'histoire. Karine Delphini.
Bonsoir. Fragile est la frontière entre le bien et le mal. Il y a des choses qui se classent aisément dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, mais il arrive que certains événements, noirs de prime abord, virent au rose. En tout cas, nos drôles d'histoires ce soir ne sont ni toutes noires, ni toutes blanches. La partition aura son lot de dièses et de bémols. Samuel Morieux-Genoux est aux commandes de la régie et Jean-Baptiste Roumens nous a choisi quelques chansons. Berry va faire l'ouverture et puis je vous parlerai d'un drôle de couple, Paul et Martha.
C'est la vie qui choisit les jours de pluie. Si c'est la nuit qui mène au paradis. Si c'est la pomme, si j'ai croqué le fruit. Ne prenez pas de pause, ne cueillez pas de roses. Ne prenez pas ma peine. Si c'est la
La voix toute fraîche de Berry, « Si c'est la vie », titre de son album sorti l'année passée. Le bien, le mal, notre thème ce soir. Et autre lien entre les récits, ils sont tous publiés dans des maisons d'édition suisses. Notre première histoire va nous mener chez Paul et Martha. C'est une nouvelle extraite du livre « Des taureaux et des femmes » de Catherine Gaillard-Sarron et publiée aux éditions Plaisir de lire. Debout derrière la fenêtre du salon, Paul regarde tomber la neige. Elle tombe à gros flocons depuis la fin de l'après-midi, enveloppant de sa douceur ce monde qui n'en est pas fait. Dehors, des enfants lugent et leurs cris lui parviennent à travers les vitres. Et dans le soir qui descend, la rue est tout illuminée des décorations de l'Avent et la foire de Noël bat son plein. Une bouffée de nostalgie le saisit. Paul a toujours aimé les Noëls blancs.
Paul !
La voix geignarde mais insistante le tire de sa contemplation.
Paul !
À contre-cœur, Paul abandonne le balai apaisant de la neige qui virevolte et se dirige d'un pas traînant vers la chambre. Paul a 65 ans. Il est petit, chétif, et dans son visage gris mais brave, ses yeux aux paupières tombantes sont tristes et sans éclat. Légèrement voûté, il avance, résigné, en direction de la voix qui s'impatiente et se fait maintenant impérieuse. Dans le couloir où il s'éloigne, ses cheveux, aussi blancs que la neige, font comme une auréole de douceur sur sa tête. « Voilà, voilà, j'arrive !» dit-il d'une voix patiente et serviable. Dans la chambre, la plus claire et la plus grande de leurs trois pièces cuisine, Martha, sa femme, est couchée sur un lit électrique. Ses cheveux gris et ternes sont tirés en arrière, en une sorte de chignon informe. Aucun signe de bonté ne vient atténuer ses traits durs et autoritaires. Tétraplégique depuis 4 ans, à la suite d'une chute dans les escaliers qui lui brisa la colonne vertébrale, Martha est depuis clouée sur ce lit comme un Christ sur sa croix. Et ce qui frappe soudain Paul, en entrant dans la pièce, c'est ce contraste saisissant entre le corps inerte de son épouse, immobilisée, et son visage cramoisi qui le houspille, excédé. Cette figure si vivante, dans ce corps déjà mort, le choque tout à coup. Fasciné, il observe ses petits yeux méchants qui le toisent avec mépris, cette bouche sévère aux lèvres minces et constamment gercées, cette bouche impitoyable dont sortent, comme d'un égout, insultes, injures et humiliations quotidiennes.
« Mais tu fous quoi, bon sang ? Voilà 1 heure que je t'appelle. Tu es sourd ou tu le fais exprès, espèce d'incapable ?»
crache Martha de sa voix éraillée. Paul baisse la tête, il a l'habitude. Il arrondit encore un peu le dos et s'enquiert de son besoin. « Que veux-tu, Martha ?»«
J'ai soif. Remonte un peu mon lit. Et puis j'ai faim. Va me chercher un yaourt. »
Martha ne sollicite pas, ne prie pas, ne s'excuse pas. Elle réclame, ordonne, exige et ne remercie jamais. Paul retourne à la cuisine en emportant le bassin. Il a conscience que la situation que vit Martha doit être pénible et difficile, mais ne comprend pas sa cruauté et sa perfidie envers lui. Il fait pourtant tout ce qu'elle lui demande sans jamais se plaindre, avec dévouement, si ce n'est plus par amour. Paul se dit parfois que cela doit la satisfaire qu'il exécute tout ce qu'elle lui ordonne sans rechigner. Peut-être a-t-elle ainsi l'impression de retrouver une certaine puissance. Humilier les autres est un pouvoir. Et Martha a toujours excellé dans cet art. Quand elle allait bien, elle était déjà un vrai tyran. Elle abusait constamment de son autorité, s'acharnant contre lui et les enfants. Et après l'accident, Paul avait cru que Martha changerait, qu'elle deviendrait plus aimable. Il avait naïvement pensé que son état de complète dépendance la rendrait plus humble, la forcerait à prendre conscience des autres, de son besoin des autres. De lui, surtout. « Martha était devenue de plus en plus odieuse et malhonnête. Elle le dérangeait plusieurs fois par jour pour des broutilles. Elle ne respectait rien, ni son temps, ni ses nuits. Paul est à peine arrivé à la cuisine que déjà la voix de Martha retentit derrière lui et le tire de ses pensées.
« Paul !»
Il a fini par prendre cette voix en horreur. Dans son esprit, Martha n'est plus un être humain. Elle est cet incessant flot sonore et venimeux qu'elle déverse à longueur de journée et de nuit sur lui. Paul se rend compte qu'il est épuisé. Heureusement que cette gentille dame, Judith, vient deux fois par jour pour la toilette et les soins, sinon il aurait sûrement déjà craqué. Judith a 59 ans, elle est veuve. C'est en parlant avec elle qu'il a pris conscience de l'enfer qui était le sien. Oui, leurs conversations lui font du bien et c'est la première fois depuis des années qu'il renoue une relation gratifiante avec une autre femme. Paul attend ses visites avec impatience. Mais Martha le sent et sa jalousie se traduit par des sarcasmes, des grossièretés encore plus virulentes à son encontre. Heureusement qu'elle peut compter sur le soutien de Judith. Depuis la chambre, la voix de Martha se fait tyrannique.
« Paul ! Paul ! Magne-toi ! »
Tout en s'affairant dans la cuisine, Paul repense à sa première rencontre avec Martha. Il se souvient qu'elle était jolie à l'époque, si sûre d'elle. C'est cela qui l'avait attiré, cette assurance, cette autorité naturelle qui émanait de sa personne. Paul, lui, était si timide, si effacé. Ils avaient pourtant le même âge, mais rien n'avait vraiment changé. Avec le temps, l'attirance s'était simplement transformée en répugnance. Ce qui l'avait attiré se révélait aujourd'hui son pire calvaire. Paul saisit un peu vivement le plateau posé sur le vaisselier et fait soudain glisser le cadre de leur mariage sur le meuble. Il le rattrape de justesse, s'y attarde un instant. 40 ans déjà. Une histoire banale, en fait. Pareille à des milliers d'autres. Une histoire de couple qui, confronté aux vicissitudes de la vie, se détériore peu à peu. Qui, sous l'effet des frustrations, des attentes et des exigences conjuguées de chacun, se délite lentement. Et finalement, rongé par l'acide du quotidien, s'abîme, corps et biens, dans une haine et un mépris destructeur.
« Paul ! Nom de Dieu !»
La voix hargneuse et impatiente de Martha résonne dans le couloir. Mais Paul ne l'entend pas. Il essaie de se remémorer à quand remontent les premières insultes, le début de sa maltraitance. Il a pourtant essayé de rendre Martha heureuse, mais elle avait tant d'attentes, tant de rêves impossibles à satisfaire. Paul est progressivement devenu sa tête de turc, son souffre-douleur. Bien sûr, il aurait dû s'affirmer davantage, ne pas se laisser traiter de la sorte, exiger du respect et la faire taire quand elle l'insultait devant les enfants. Mais insidieusement, par habitude, par facilité, par docilité aussi, il se retrouvait captif de mécanismes qu'il ne contrôlait plus et auxquels il lui est devenu impossible d'échapper. Paul a conscience qu'il est un des éléments du piège qui l'emprisonne. Il ne se cache pas les choses. Ils ont toujours été deux dans la barque. Cette barque qui, au fil du temps, s'est transformée en galère pour lui. Il aurait pu partir. Il aurait dû partir. Il y avait songé. Mais tant de choses le retenaient malgré tout. Et il est si difficile de quitter ce qu'on connaît, même si c'est un enfer. Où serait-il allé ? Que pouvait-il faire d'autre ? Sa vie était là, avec Martha et les enfants. Mais semblable au forçat enchaîné à ses rames, Paul, par son choix, savait qu'il galérerait jusqu'à la mort. Alors il était devenu la chose de Martha. La cible de son acharnement, la soupape de sécurité par laquelle elle laissait échapper ses frustrations, son incapacité à changer sa propre vie. Et il l'avait accepté.
Bordel de merde, Paul! Mais qu'est-ce que tu fous à la fin?
Vociféra la voix exaspérée.
le plateau dans les mains, Paul arrive enfin dans la chambre où Martha l'accueille avec les injures et les critiques habituelles. Après avoir relevé la tête du lit et installé Martha pour sa collation, il lui attache sa serviette autour du cou et avec une abnégation hors du commun, commence à la nourrir à la cuillère. Martha est encore rouge de colère. Elle ne cesse de parler, de se plaindre, de l'insulter. Elle parle, en dépit du yaourt que Paul, comme hermétique à ses plaintes, dépose avec difficulté, mais application, dans sa bouche infernale. Elle parle, lui postillonnant sans vergogne le visage entre chaque cuillerée qu'elle avale goulûment. Paul se dit qu'il n'a même pas la paix pendant qu'elle mange. Mécaniquement, automatiquement, il effectue ses gestes quotidiens, s'évadant par le regard vers la fenêtre, où la neige tournoie avec grâce. « Martha ?» dit soudain Paul. « Tu sais que c'est la veille de Noël aujourd'hui ?»«
M'en fous complètement !»
Mais Paul, comme indifférent aux propos de Martha, continue sur sa lancée en regardant tomber la neige. « J'ai mis une dinde au four pour ce soir, et du mousseux au frais. »
C'est du gaspillage. Ridicule. Vraiment. Je ne mange rien, et toi non plus. Autant qu'il faudra jeter, mais tu ferais bien mieux d'économiser nos sous.
Mais bien au chaud dans ses souvenirs, Paul poursuit. Tu te souviens, quand les enfants étaient avec nous?
Bon débarras. C'est bon à rien, n'en foutez pas une.
Paul songe à leurs deux enfants, partis depuis longtemps et qui ne viennent plus jamais les voir. Tout comme à lui, Martha leur a fait une vie impossible. Et Paul est triste, s'en veut, se sent tellement coupable. Il n'a pas su les protéger de cette mère indigne et autoritaire.
« Bon, j'aimerais dormir un peu maintenant. »
lui balance abruptement Martha pour le congédier et pour tout remerciement.
« Va voir plutôt la cuisine, ce que raconte ta dinde. » « En attendant l'arrivée de l'autre. »
siffle-t-elle l'air mauvais entre ses dents. Paul accuse le coup sans mot dire. Il est accoutumé à ses perfidies. Il reprend le plateau et s'en revient à la cuisine. Il s'empresse de faire la vaisselle, jette un œil à la dinde qui rôtit dans le four et puis avec un soupir de soulagement va s'asseoir sur le divan au salon. Enfin, un moment de tranquillité. Il allume la télé. Et aussitôt, les voix mélodieuses de dizaines de petits chanteurs remplissent la pièce de cantiques de Noël. Oh, quel changement, quel ravissement. Paul ferme les yeux pour au mieux apprécier les mélodies. Mais 10 minutes ne sont pas écoulées que la voix de Martha, une fois de plus, vient briser le charme et la magie de ces précieux instants. Alors pareil à un automate. Non, un chien bien dressé serait plus juste. Paul se relève et reprend le chemin de la chambre. Et le manège dure jusqu'à l'arrivée de Judith. L'aide-soignante partie, Paul se sent seul et triste à nouveau. Ce soir, ils se sont fait la bise en se souhaitant un joyeux Noël, et Paul s'est senti troublé par ce baiser. Il y avait tellement longtemps qu'il n'en avait plus reçu. Il aurait aimé retenir un peu les douces mains de Judith entre les siennes, quand spontanément, elle les lui avait tendues sur le pas de la porte. Elle n'avait pas osé. Pourtant, quand une dernière fois, elle s'était retournée et avait posé sur lui son regard plein de bonté, il s'était senti revivre. Oui, il s'était enfin senti vivant. Un peu mélancolique, Paul met à présent la main au dernier préparatif du réveillon.
Il sort la dinde du four et la découpe. Elle a l'air succulente et cuite à point. Ce soir, pour lui, il a soigné sa table. Il a mis une jolie nappe, une assiette en porcelaine et des couverts en argent. Il n'y a pas de sapin de Noël. Martha estime que cela ne sert à rien et surtout que cela coûte trop cher. Mais Paul a tout de même confectionné un petit arrangement fait d'une branche de sapin et d'une bougie dorée. La flamme qui danse pour lui dans la cuisine réchauffe un peu sa solitude et emplit son cœur d'une nostalgie aux senteurs de pain, de cire et d'orange. Il a également préparé un plateau pour Martha. Elle aussi a découvert en argent et sur l'assiette en porcelaine le morceau de dinde qu'il a déjà découpé dégage un fumet délicieux. Délicat, Paul a même allumé une petite bougie rouge et parsemé d'aiguilles de sapin la serviette blanche. Martha aussi a droit à une lumière dans son cœur le soir de Noël. Peut-être sera-t-elle touchée par son attention ? Voilà, c'est prêt. Son plateau dans les mains, Paul, généreux et charitable, se dirige vers la chambre de Martha. Mais à peine a-t-il passé le pas de porte que déjà elle s'emporte avec aigreur. « Mais c'est pas vrai ! Mais je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas utiliser mon service en porcelaine et l'argenterie de ma mère. Tu pourrais les abîmer et tu ne sais pas les nettoyer comme il faut !» Paul ne répond pas. Ce soir c'est Noël et Martha ne lui gâchera pas cette fête. « Tu n'as même pas fait de purée de marron pour accompagner la dinde !» reproche-t-elle avec acrimonie quand il pose le plateau sur la table. Paul ne pipe toujours mot. Et bouchée après bouchée, il sustente consciencieusement cette chair indigne et cette bouche immonde qui vomit son fiel. Il la contemple et se dit que Martha se vide méthodiquement de sa méchanceté, tout comme lui la remplit tout aussi mécaniquement de nourriture. Et soudain, en plein milieu d'une récrimination, Martha avale de travers et s'étouffe avec un morceau de dinde. Paul, qui la dévisage toujours, ne bouge pas. Fasciné, il regarde sans la voir cette femme qu'il a tant fait souffrir. Martha le supplie des yeux, mais dans ceux de Paul, inexorablement, défile tout ce qu'elle lui a fait endurer. Il la considère et repense à sa vie gâchée, à ses enfants. En face de lui, Martha fait des efforts surhumains pour bouger ses membres paralysés et attirer son attention ou sa compassion. Mais Paul, qui la scrute fixement, ne ressent étonnamment aucune pitié face à cette femme soudain affolée à l'idée de mourir étouffée. Il l'observe. Il la trouve pathétique et ridicule. Martha, soudain, ne lui inspire plus rien. Ni crainte, ni pitié. Rien. Que de l'indifférence. Alors le silence de Martha libérant la parole de Paul, il lui dit d'une voix calme et atone « Martha, Martha, pendant des années, j'ai été à tes côtés et je t'ai aimée, au début, et puis je t'ai supportée. Je t'ai endurée et pour finir, je t'ai haïe. De cet accompagnement fait de douleur et d'humiliation quotidienne, il ne me reste qu'un grand trou, un immense vide, où tout ce que j'étais a basculé. Tu as été un prédateur, Martha. Et j'ai le sentiment que tu m'as dévorée, tu ne m'as rien laissé, ni amour, ni espace, ni respect, rien. Rien que des injures, des reproches, et ton épouvantable cruauté. Tu m'as réduit à n'être que l'ombre de moi-même, et je me suis perdue à te suivre. Mais l'heure est venue pour toi maintenant de payer toutes ces années de souffrance que tu nous as infligées aux enfants et à moi. Tu vois, Martha ? Reprend-il doucement le regard perdu dans ses sombres souvenirs. Ce sont tes propres avanies qui t'étouffent aujourd'hui. C'est ton infâme et révoltante méchanceté qui te reste en travers de la gorge et t'étrangle enfin. Dans le lit, les yeux exorbités et roulant en tous sens, Martha suffoque. Elle est agitée de soubresauts, des éclats assassins allument son regard jaune. Paul, sans se démonter, l'observe toujours, impassible. Il a les deux mains posées sur ses genoux. Son regard est absent. Totalement tourné vers son passé, il semble figé par la mélancolie, statufié. Il n'y a aucune trace de haine, de vengeance ou de satisfaction sur son visage. Juste de la tristesse. Une immense tristesse. C'est d'un ton paisible et plein de douceur qu'il poursuit son monologue, traversant sans les voir les yeux déments de Martha qui le supplie. J'ai beaucoup imploré le ciel pour que mon calvaire s'arrête, tu sais, pour que tu changes, pour que notre vie soit meilleure. Je ne t'ai jamais fait de mal, moi, Martha. Je voulais juste que tout se déroule tranquillement. Tu étais ma femme, après tout, et je t'avais choisie par amour. Est-ce la raison qui fait que je ne suis jamais partie? Peut-être n'arrivais-je pas à admettre que j'avais épousé un monstre? Ou était-ce tout simplement le désir de protéger nos enfants de ton emprise malsaine? Je voulais qu'ils reçoivent un peu d'amour de leur père, qu'ils sachent que l'humanité et la bonté existaient aussi autour d'eux. Mais tu as si bien piétiné, dévalorisé l'image paternelle à leurs yeux, que j'ai bien peur que mon sacrifice n'ait servi à rien. Ils ne m'aiment pas, ne me respectent pas. Mais puis-je leur en vouloir? Ils ne voient en moi que l'image d'un père déchu et mou, une image que tu as toi-même créée de toutes pièces, que tu leur as renvoyé pendant toutes ces années, une image à laquelle ils ont cru. Mais j'aurais essayé, Martha. J'aurais essayé de les préserver. Dans les yeux de Martha, à présent injectés de sang, Paul a tout à coup l'impression de voir défiler à la vitesse du son les 40 années qui les unissaient pour le pire. Un peu de mousse perle aux commissures des lèvres de sa femme, des lèvres tremblantes et muettes à présent, d'où ne sortent plus aucune parole blessante. Paul voit tout cela, mais étrangement semble complètement détaché de la réalité. Dans un état second, il assiste, indifférent, au spectacle de l'agonie de Martha sans s'émouvoir, comme si pendant ce temps, son esprit était ailleurs, dans une autre dimension. Alors toujours pensif, mais le regard serein, il reprend. « Oui, Martha, j'ai beaucoup prié et imploré le ciel pour qu'il me donne la force de te supporter et pour qu'il me délivre de mes tourments. Mais je n'ai jamais pensé de mal, non. Je n'ai jamais pensé de mal, Martha. Et Dieu m'en est témoin. J'attendais. J'attendais tout simplement, patiemment, ton heure. Il s'anime soudain et interpelle Martha, qui est toute bleue à présent. Tu connais ce proverbe qui dit « Si quelqu'un t'a fait du mal, laisse faire. Assieds-toi au bord de la rivière et attends que son cadavre passe. » Eh ben, tu vois, Martha, je ne croyais plus à rien. Mais à partir d'aujourd'hui, je crois bien que je vais croire à nouveau au Père Noël. Alors Paul se lève. Une dernière fois, il regarde Martha. Il souffle la flamme tremblotante de la bougie sur le plateau et en guise d'homélie funèbre lui lance d'une voix solennelle et triste « Joyeux Noël, Martha, et que le diable t'emporte !» D'un pas lent, Paul retourne à la cuisine. L'air hébété, il regarde les choses autour de lui comme si c'était la première fois qu'il les voyait. Un silence inhabituel et insolite règne dans l'appartement. Il remarque la table dressée, la bougie dorée qui éclaire son repas interrompu. Et tout lui semble étrange et ralenti. Il s'assied à la table et machinalement, le regard perdu dans la contemplation de la neige qui tourbillonne, termine sa dinde qui a refroidi dans son assiette. Il boit une tasse de café, s'accorde un verre de mousseux et puis se décide à composer le numéro de police secours. Alors, toujours fasciné par la magie des flocons virevoltants derrière les carreaux, Paul se lève. Il s'avance lentement vers la fenêtre qu'il ouvre en grand. Dehors, il fait nuit. La neige tombe toujours, froide, silencieuse, mais si apaisante, si reposante. Il la regarde descendre doucement du ciel et recouvrir, tel un linceul, tout ce qui existait auparavant, offrant à son regard un paysage nouveau et vierge de toute trace. Il respire à plein poumon l'air glacé de décembre. Il se sent libre. Et dans ses yeux, des étoiles se sont allumées. Il pense à Judith. Alors, pareil à un enfant innocent, il ouvre soudain grand la bouche et redécouvre émerveillé la caresse ténue de la neige sur son visage et le goût merveilleux des flocons qui viennent fondre sur sa langue. Paul a toujours aimé les Noëls blancs.
Is it hard to go on? Make them believe you are strong. Don't close your eyes. All my nights felt like days. So much light in every way. Just blink an eye. I used to be someone happy. Smiles, all is fake. Let me come in, I feel sick. Give me your arm. From the shadow to the sun, only one step and you burn. Don't stay too high. I used to be someone happy. We'll be right back.
Endless Song par Aaron sur la première. Je ne sais pas combien de fois avec Lolita on vous a ouvert le livre « On peut aussi en rire » de Jacques Bombay aux éditions Messeyer. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on l'a trifouillé et qu'on y a trouvé des choses plaisantes. C'est pas un mal que de se faire du bien. Et justement, le titre, c'est « Le bien et le mal ». Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? À vrai dire, je ne distingue pas bien la différence entre le mal et le bien. Il y a des gens qui vous disent que c'est mal de posséder trop de biens, et les possesseurs de biens vous disent qu'ils se sont donné du mal pour acquérir ce bien. Des parents giflent leur gosse, celui-ci dit alors « Vous m'avez fait mal !» Et les parents répondent « C'est pour ton bien !» Si vous rencontrez un masochiste, il va tout de suite vous dire que le mal lui fait du bien. Vous avez des gens bien qui disent du mal des autres au nom du bien, et il y a ceux qui souhaitent du mal à certains en disant que ça leur ferait du bien. Les politiciens vous disent « Surtout, votez bien, et ça ira mieux. » Et le lendemain, ça va tout aussi mal. Bref, étant donné la difficulté qu'il y a à distinguer le bien du mal, j'ai décidé de me donner du mal pour trouver des gens bien qui m'expliqueront peut-être la nature du mal comme celle du bien. Je commence donc mon enquête. Sur mon chemin, je rencontre un prêtre et je lui demande « Pardon, monsieur l'abbé, d'après vous, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ?» Il me répond « Mais vous sortez d'où, vous ? Dieu, c'est le bien et le diable, c'est le mal !» Excusez-moi, mais Dieu, je ne le connais pas bien, et le diable, je le connais très mal. » Il me dit, « Ah ben ça, c'est pas bien. Je vais donc vous enseigner la Bible. Venez à mon catéchisme et nous verrons si, en vous, le bien peut triompher du mal. » J'aurais jamais dû y aller. Car ayant eu connaissance du déluge, de la destruction de Sodome et Gomorre, de la transformation de la femme de Lot en statue de sel et du sacrifice d'Isaac, n'ai pas su où était le bien et le mal, où pouvaient se loger ces deux notions entre les foudres du ciel et les flammes de l'enfer. Alors j'ai poursuivi mon chemin et j'ai rencontré le propriétaire de la région qui se promenait, main au dos et cigare à la bouche. Je l'aborde et lui demande « Pardon monsieur, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal ?»« Ah, vous tombez mal, je dois surveiller mon bien. » »« Certes, mais... rien que quelques minutes, parlez-moi du mal et du bien. » Eh bien, le mal, c'est de ne pas avoir de bien. Et le bien, c'est de se donner du mal pour en avoir. J'espère bien que vous ne me comprenez pas trop mal. J'ai pas compris du tout. J'ai continué ma route et j'ai rencontré un policier. « Pardon, monsieur l'agent, le bien et le mal, qu'est-ce que c'est ?» Il me répond « Vos papiers. » « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?»« Vous verrez bien. » Et ensuite, il m'a rendu mes papiers en me disant « C'est bien. Vous êtes un type pas mal. Le bien et le mal, me demandez-vous. Eh bien, le mal, c'est tout ce qui n'est pas la loi, et le bien, c'est tout ce qui est la loi. » Une gagneuse qui passait par là, l'ayant écouté, lui dit « Et la loi des mâles, vous croyez que c'est bien ?» Et le policier lui répond « En tout cas, vous les mâles, vous payez bien. » Quand j'ai vu qu'ils allaient peut-être se mettre à mal, j'ai trouvé bien de poursuivre plus loin. Et sur mon chemin, un officier supérieur de l'armée apparaît soudain devant moi. J'en profite pour lui demander son avis sur le bien et le mal. Alors il s'écrie « Garde à vous !» Mais je ne comprends pas bien. « Ça ne fait rien. Ça vous fera pas de mal. Écoutez, le bien, c'est la guerre, le mal, c'est la paix. » « Mais monsieur l'officier, la guerre, c'est la mort et la ruine ?» Donc c'est le mal. C'est la faute de l'armée d'en face, qui est l'armée du mal. Nous sommes l'armée du bien. Alors si je comprends bien, la lutte entre le mal et le bien n'est autre pour vous que la guerre, ce mal que vous trouvez si bien. Je ne vous comprends pas bien. Vous vous expliquez mal. Rompez. Je me suis sentie bien car il m'a semblé rompre avec le mal. À peine l'officier avait-il tourné les talons que je rencontre un juge d'instruction. Je l'aborde et lui demande « Excusez-moi, monsieur le juge, vous êtes certainement le mieux placé pour me renseigner. Dites-moi ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. »
Très bonne question, mon brave. Ce qui est bien, c'est mon intime conviction, et ce qui est mal, c'est tout ce qui s'y oppose.
J'ai pris congé du juge, en ne sachant toujours pas ce qu'était le bien et le mal. J'en ai conclu qu'il ne fallait pas se donner du mal à chercher le bien.
Qu'en voulant faire le bien, on pourrait faire du mal, pour peu que l'on ne s'y prenne pas bien, et que le mal du bien aboutissait au bien mal acquis. Qu'on pouvait se trouver mal dans une abondance de bien, et que l'on pouvait se faire très mal en se battant bien. Bref, que l'un et l'autre étaient indissociables.
Me and the Devil, Jill Scott Heron. Le bien, le mal, être heureux, être sur la pente glissante, tel est le thème de ce soir, avec des récits écrits par des auteurs suisses. Nouvelles de personnes, c'est un livre d'Hélène Richard Favre, publié aux éditions d'En Bas. Voici un extrait, La fin d'Edmond Charrière.
Ha
je me sens seule et abandonnée de tous. J'ai expliqué au docteur ce que je ressentais parce que j'ai consacré de nombreuses heures à réfléchir, à analyser ma situation. Nous sommes tombés d'accord sur plusieurs points. Mon analyse s'est révélée correcte, mais le savoir ne m'a pas guérie pour autant du mal qui me ronge. J'ai cru qu'en le comprenant, qu'en parvenant à le cerner, je réussirais ainsi à m'en débarrasser. Mais non, point du tout. Que faire alors? Augmenter la dose journalière de médicaments? Chercher à m'occuper pour combler le vide dans lequel je me sentais? Peut-être bien que la solution se trouvait là. Mais quelle occupation allais-je choisir? Le sport? Une activité manuelle? Un peu de culture? La lecture, par exemple? Ouais, lire des histoires me changerait des miennes et me divertirait un peu, tiens. Quel genre d'histoire aimerais-je? De l'amour, je n'avais pas trop envie, car je sortais péniblement d'une liaison douloureuse. Alors lire une histoire de cet ordre, pour peu qu'elle se termine encore mal, n'arrangerait pas mon sort. Il fallait donc préférer l'aventure, l'héroïsme même, car ainsi je reprendrais confiance en moi. Après 15 jours, j'avais déjà parcouru 200 pages d'une épopée grecque. Très fière de moi, j'allais trouver mon médecin qui salua mes prouesses. Il ne semblait toutefois pas en être vraiment impressionné. Pour lui, mes progrès étaient normaux et dans l'ordre des choses. Mais j'attendais de lui qu'il me félicite et m'encourage davantage encore. Alors, son attitude me glaça et coupa mes élans. Je sombrais alors dans la mélancolie la plus profonde. Ah, cette fois, je la sentais tenace. Elle allait devenir opiniâtre même. Car si j'étais devenu indifférent à mon psychiatre, qui donc allait encore s'intéresser à moi? Il n'y a plus rien, ni personne qui me retienne dans ce monde. La dépression est donc ma seule issue. Pourquoi lutter? Je vais mourir, et ce sentiment ne m'est pas franchement désagréable. Ma vie me paraît avoir été remplie à ma convenance. Mais si elle devait se prolonger, elle ne serait qu'une succession d'échecs. Je le sens ainsi. Rien ne pourra plus m'enlever cette idée de la tête. Il est donc préférable que je m'en aille. Bien sûr, pour l'entourage, une mort est toujours plus difficile à supporter, mais que peut-on contre les voies du destin? Malade, aigri et oublié de tous. Je n'ai plus rien à apporter sur terre. Le peu que tu apportes est une pierre contribuant à la construction de l'édifice qu'est la société ou la vie des hommes en général, mon fils. Mais à quoi bon cet édifice, monsieur le pasteur? N'a jamais pu me répondre, car lui-même s'y sentait mal aussi dans cette société à construire. Et pourtant, il aurait été bien placé pour me guider. Ah tiens, lui qui se trouvait toujours si près de notre sauveur. Et maintenant, ce n'est plus possible. Il l'a rejoint définitivement. Je l'aimais. Nous avions de bonnes discussions tous les deux. Je l'avais connu à la clinique. J'allais en sortir quand il y est entré. Il était dépressif, lui aussi. Mais sa foi, me disais-je, l'empêcherait de désespérer totalement. Elle voilà pourtant désormais arrachée à ce monde auquel il me recommandait fiévreusement de participer. Oh mon Dieu, c'est Irène. Non, Irène! Non! Je ne veux plus de toi! Je t'ai aimée, comme tous ceux d'ailleurs qui m'étaient proches, mais non. Aujourd'hui, j'ai décidé de me laisser mourir. Irène, l'amour que tu me portes peut-être encore, eh ben garde-le pour toi, ou pour un autre, qui te rendra certainement plus heureuse que je n'ai su le faire. Oh, ma mort, théoriquement, ne devrait gêner personne, hein, puisque ma vie n'a pas préoccupé les consciences. C'est fait, Irène. Mon testament est rédigé. Mes rancunes sont éteintes, je me rends paix. Non, n'insiste pas, Irène. Je ne t'ouvrirai pas. Ah non, tu risques encore de me redonner goût à la vie. Contrôle de l'habitant, ouvrez, je vous prie. Contrôle de l'habitant, ouvrez, je vous prie.
Serais-je perdu, assassin, n'espérant plus que la fin? Serais-je encore là demain, ne craignant plus le destin, le destin? Je me cherche, ne trouve rien. Quelques mots froissés au matin. L'obscurité vient enfin. Un bruit étrange vient soudain, vient soudain. Tous mes regrets sont sans fin et je n'attends presque rien. Pas de remords évanouis, je reste là en sursis, en sursis. Assassin, n'espérant plus que la fin, que la fin, que la fin. Serais-je perdu, serais-je perdu,
immaculé, déchiré,
serais-je perdu?
Serais-je perdu, Daniel Darc. Il est l'heure de fermer nos livres. C'est Samuel Morier-Genoux qui a réalisé cette émission et Jean-Baptiste Romains, lui, a fait le choix des chansons. Demain soir, je vous raconterai de drôles d'histoires d'amour, entre autres celle de Merlin et Viviane, mais aussi celle d'une femme éprise de son violoncelle. Des choses folles, folles, folles. Juste après les informations, la ligne de cœur avec Alain Maillard. Très belle fin de soirée sur la première, 22h.